RCF. Amis auditeurs, auditrices de RCF et de notre émission « La vie militaire dans le Cher et le Berry », dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonjour, notre saison 2023-2024 se poursuit avec des invités au parcours consacré à la vie de notre République. Le mois dernier, nous avons reçu l'amiral Mallard au parcours remarquable au sein de la Marine nationale. Aujourd'hui, nous accueillons Loïc Kervran, député de la 3e circonscription de notre département du Cher, conseiller municipal de la commune d'Orsenay. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et c'est volontairement que je vous appelle par votre prénom. En effet, avant de devenir l'homme public, vous avez un chemin personnel. C'est justement l'objet de cette première émission. Notre seconde émission fera découvrir l'homme politique, plus exactement comment s'organise la vie d'un député. Et notre dernière émission reviendra sur la situation internationale dans la mesure où vous êtes très impliqué dans ce domaine. Après cette longue introduction, qui est Loïc Kervran? Ma première question est la suivante. Que fait un Breton dans le bois chaud sud, aussi loin de son massif armoricain et de ses côtes granitiques? Loïc.
Ah, c'est que je ne suis qu'à moitié breton par mon père, fonctionnaire, qui a eu ses premiers postes dans le Bourbonnais, puis dans le Cher, ses postes d'enseignant à Dun-sur-Oron, en l'occurrence, puis à Bourges. Ce qui fait que voilà, nous nous sommes installés dans le Berry. Moi, je suis arrivé dans le Berry, j'avais 1 an, je suis né en Bourbonnais, pour être précis, et je ne l'ai plus jamais quitté.
Oui, tout à fait. Je vous connaissais, Loïc, parce que vos parents avaient une amie commune, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, justement, vous avez un parcours intéressant. Vous faites vos études dans quel collège?
Au collège Littré, à
Littré, oui. Et ensuite, vous allez au lycée Marguerite de Navarre, un excellent lycée que je connais bien, parce que dans une vie antérieure, j'étais correcteur du bac à ce lycée Marguerite de Navarre. Classe préparatoire où? Votre classe prépa, c'est où, Loïc?
Alors, classe préparatoire, 1 mois seulement à Paris, puisque en fait, je passe le concours de Sciences Po. À l'époque, on pouvait faire de cette manière pendant l'été, oui. En candidat libre. Je me prépare un peu tout seul. Je passe 2 mois vraiment à lire, à travailler. Je passe le concours au tout début du mois de septembre. Je fais 1 mois de classe préparatoire à Paris avec l'objectif Sciences Po Normal Sup. Et puis, au bout d'un mois, les résultats tombent. Je suis admis à Sciences Po Lille et à Sciences Po Paris et je choisi d'aller à Sciences Po Paris.
Pourquoi Sciences Po Paris?
D'abord parce que c'était une école finalement qui ne fermait pas vraiment de portes. C'est une école qui permettait une scolarité assez généraliste. Et puis, il faut le dire, avec un renom tel que voilà, ça ne fermait aucune porte. Et c'est ce qui m'intéressait parce que moi, j'ai jamais eu l'esprit vraiment d'un spécialiste. Je suis plutôt un généraliste, j'aime toucher à tout. Et c'est ce qui me plaisait aussi à Sciences Po.
Alors, combien d'années Sciences Po?
5 ans à Sciences Po, donc oui. Avec une scolarité un peu particulière puisque j'ai fait sur au total 1 an et demi de stage au cours de cette scolarité. 1 an pour le programme des Nations Unies pour le développement au Honduras. Il faut imaginer ce que c'est que d'arriver à Tegucigalpa à l'âge de 20 ans tout seul. Et puis 6 mois au Panama, là aussi pour le programme des Nations Unies pour le développement.
Et vous obtenez en 2007 un master en relations internationales. Alors, qu'est-ce qu'un master en relations internationales? Rappelez-nous un petit peu ce que c'est qu'un master, parce que moi, je suis encore la génération des maîtrises.
Oui, alors, donc, master, on est sur un diplôme de niveau Bac plus 5, et puis oui. C'était une des spécialités, ce qu'on appelait RI, relations internationales, avant à Sciences Po. Donc, voilà, beaucoup de géopolitique.
Alors, qu'est-ce qui vous a apporté votre expérience en Amérique du Sud?
Alors ça m'a beaucoup apporté d'abord à titre personnel parce que comme je le disais, arriver dans une ville comme Tegucigalpa au cœur de l'Amérique centrale à une époque où l'Amérique centrale était quand même minée, elle est toujours par les guerres de gangs, dans un environnement quand même assez dur, vous avez 20 ans, ça fait mûrir très très rapidement. Et puis, ce sont aussi des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui, et puis qui m'ont permis aussi, après, d'abord de faire ce deuxième stage au Panama, et puis sans doute de rejoindre aussi la London School of Economics grâce à différents contacts
alors,
que j'avais
fait. Qu'est-ce que la... Vous obtenez un second master à la London School of Economics.
C'est une école anglaise dont le nom complet d'ailleurs on l'oublie souvent est London School of Economics and Political Science. Donc c'est à la fois de l'économie mais aussi de la science politique et moi c'est plutôt la deuxième partie que j'ai faite puisque j'ai continué sur mon cursus plutôt relations internationales. En l'approfondissant et puis aussi en réglant ce qui était une question encore pour moi à l'époque, la question de l'anglais.
Alors justement, est-ce que vous conversez correctement en anglais, mon cher Loïc ?
Et oui, maintenant c'est vraiment cette année à Londres qui m'a permis de régler ça parce que autant j'avais des facilités en espagnol, en portugais, et puis ça a été vraiment au cœur de ma scolarité à Sciences Po qui était plutôt sur la partie péninsule ibérique et Amérique latine. Autant l'anglais est longtemps resté pour moi voilà, un petit souci que j'ai réglé avec cette année à Londres, je crois.
Ah oui, très bien, très bien, très bien. Parfait. Alors, en 2019, vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Qu'est-ce que... Là aussi, haute question. C'est ce qu'on appelle l'IHEDN, c'est ça ?
L'IHEDN, exactement.
Alors, donc, qu'est-ce que c'est ?
C'est ce que moi j'ai fait, ce qu'on appelle la 71e session politique de défense. Donc c'est une formation assez atypique en France, dans laquelle nous sommes nommés par un texte du Premier ministre qui est publié au Journal officiel et qui réunit en fait des officiers qui sont dans ce qu'on appelle le CHEM, donc ils sont vraiment sur la dernière étape de leur carrière et c'est le diplôme qui va leur permettre ensuite d'accéder aux fonctions de généraux. Donc moitié d'officiers et moitié de civils. Et dans ces civils, vous avez des hommes politiques, vous avez des journalistes, vous avez des chefs d'entreprise. Et ce qu'essaye de faire la France à travers cette école un peu particulière, c'est de rapprocher les armées et le reste de la nation, le reste des forces vives de la nation, et de créer des liens. Et en deux mots, dans cette session, et j'ai toujours des liens avec chacun de mes camarades, vous avez l'actuel patron du GIGN, l'ancien pacha du Charles de Gaulle, le conseiller militaire du président de la République, etc. Et donc c'est ces liens-là très forts que l'on crée à travers une année passée ensemble, 2-3 jours par semaine, des déplacements, beaucoup de convivialité, de proximité, de travail, sont des liens qu'on garde pour la vie et qui construisent aussi une nation.
Vous êtes combien dans la promotion, par exemple ?
Nous sommes une centaine.
Une centaine.
Donc moitié de militaires, moitié de civils.
Et c'est les critères de sélection se font comment ?
Donc pour les militaires, c'est évidemment une sélection drastique puisque ça on appelle ça la voie des étoiles parce que ce sont vraiment des gens qui vont être nommés généraux en général 2 à 3 ans après leur passage dans cette formation. Et puis pour les autres, c'est une sélection aussi assez rude avec un jury, etc.
Pendant tout ça, est-ce que vous exercez une activité professionnelle ?
Alors aujourd'hui, je n'exerce plus d'activité professionnelle.
Et pendant votre temps d'études, vous avez été salarié, avait été boursier, c'est intéressant ça de savoir.
Oui, tout à fait, oui. En fait, moi, j'ai travaillé assez jeune, même avant même de commencer mes études. J'ai fait pas mal de piges au Berry Républicain pour nos auditeurs
très bien.
Du Cher. J'ai travaillé sur les vendanges, j'ai fait de la mise en rayon chez Decathlon, j'ai fait beaucoup de petits boulots comme ça. La mise sous pli aussi de documents électoraux à la préfecture. Je ne sais pas s'il faut y voir une,
oui, exactement, oui.
Une anticipation du futur. Mais voilà, beaucoup de petits boulots comme ça, effectivement.
Alors, vous avez été en Amérique centrale, Amérique du Sud, mais je sais que votre domaine, disons, votre attachement est plus vers ce que j'appellerais, moi, le Moyen-Orient. Et en particulier, un pays que, nous disions ça en aparté, que j'appréciais beaucoup, de fait certainement de ma scolarité, d'en avoir beaucoup entendu parler, c'est le Liban. C'est le Liban, et je pense en particulier aux frères des écoles chrétiennes, ce qu'on appelle Jean-Baptiste Vassal, qui sont qui restent très impliqués dans ce Liban, dans ce malheureux Liban. Et quand je dis malheureux Liban, c'est véritablement ce que je pense. Puisque lorsqu'on connaît un peu l'histoire du cèdre, de cette cohabitation qui pendant des siècles a duré entre musulmans, juifs, chrétiens, et que nous sommes arrivés là dans une situation terrible, d'apocalyptique, alors que ce Liban est un Liban que je qualifie de paix, de tolérance et d'écoute. Alors, Loïc, parlez-moi de ce Liban.
Alors, effectivement, j'ai un petit peu changé de région. Je suis passé de l'Amérique latine au Liban pour des raisons personnelles, puisque j'ai rencontré mon épouse qui est à Sciences Po, qui est libanaise, la mère de mes enfants. Et donc, j'ai changé de région et je suis beaucoup allé au Liban, en réalité, entre 30 et 40 fois, à la fois dans des voyages personnels, mais aussi en accompagnant le président de la République, par exemple, au moment de l'explosion du port de Beyrouth.
Oui.
Et c'est vrai que le Liban, aujourd'hui, traverse une phase absolument critique, extrêmement difficile, d'abord d'un point de vue économique.
Oui.
C'est d'abord une crise économique qui touche d'ailleurs tous les habitants du Liban, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur place sur l'échiquier politique. Et puis aujourd'hui aussi une des tensions extrêmes avec Israël et des affrontements entre le Liban sud et Israël qui sont quotidiens sans qu'on sache réellement jusqu'où ça peut aller.
Moi je dis souvent malheureux Liban parce que il faut savoir qu'en France beaucoup d'étudiants en médecine en particulier beaucoup de médecins sont d'origine libanaise.
Oui, pendant longtemps, la France avait un mécanisme de un double diplôme et permettait à des médecins formés au Liban d'exercer en France.
Oui.
C'est ce qui fait que dans beaucoup de nos hôpitaux de province en particulier tiennent grâce aux médecins libanais. Il faut le saluer. Et puis c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire multiséculaire. La France est. Moi, à chaque fois que je vais au Liban, on me dit mais la France c'est notre mère à tous.
Oui. Je pense que c'est une réalité, hein.
Oui, c'est une relation presque familiale, presque filiale ou fraternelle entre nous, qui est vraiment vraiment extrêmement forte. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai fait ce déplacement avec le président de la République. C'était extrêmement difficile et émouvant de voir pour moi des lieux que je connaissais très bien détruits et puis de voir cette jeunesse libanaise désespérée qui nous demandait mais prenez-nous avec vous, emmenez-nous avec vous, on n'en peut plus de la corruption, de la crise économique, etc.
Un pays du Liban maltraité et je sais que vous y êtes personnellement profondément attaché, Loïc. Alors, merci Loïc pour cette première émission où nous avons découvert votre parcours intellectuel, d'étudiant, de Sciences Po, mais aussi tout cet attachement profond que vous avez pour ce beau pays qu'est le Liban. Amis fidèles auditeurs et auditrices, merci aussi pour votre écoute et à très bientôt pour découvrir l'homme public et politique, Loïc Cavran. Merci Loïc.
Merci.